L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche. Avec mon invité, l'ex-ministre algérien de l'industrie Ferhat Haïtali. Nous parlerons de la résolution non contraignante du Parlement européen visant la Russie et de la lettre adressée par des eurodéputés à la Commission européenne visant l'Algérie. En effet, la résolution suggère de classer le pays de Léon Tolstoï comme sponsor du terrorisme international, la Russie, qui, je rappelle, a vaincu Daesh en Syrie. Parallèlement, les eurodéputés s'attaquent aux accords d'association et de libre-échange avec l'Algérie en raison de ses relations étroites avec la Russie. Visiblement, malgré l'échec des sanctions anti-russes, le ridicule ne tue toujours pas au Parlement de Strasbourg. A tout de suite. Mercredi 23 novembre, le Parlement européen a voté une résolution qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme. Le texte a été adopté par 494 voix. Le Parlement européen est à Strasbourg, ville française se trouvant à 500 km à l'est de la capitale Paris. Oui, c'est à Paris que l'actuel président du Conseil constitutionnel français, Laurent Fabius, avait déclaré à l'Assemblée nationale que les djihadistes du Front al-Nosra faisaient du bon boulot en Syrie. Fabius était alors chef de la diplomatie française. Oui, chers auditeurs, il a fait cette déclaration tonitruante alors que près de 5000 soldats français venaient juste d'être déployés au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane pour combattre les groupes terroristes, dont certains sont affiliés à Al-Qaïda, qui avait failli prendre la capitale du Mali, Bamako. Des groupes terroristes armés jusqu'aux dents, avec les armes larguées par les avions de l'OTAN en 2011 en Libye, pays détruit sous instigation française. Mais les Occidentaux ne sont pas à leur premier deux poids deux mesures. En effet, tout comme en Ukraine, Robert Gates, l'ancien patron de la CIA, a écrit dans ses mémoires que les services secrets américains ont commencé à aider les Moudjahidines afghans 6 mois avant l'intervention soviétique. Dans une interview explosive de janvier 1998 au Nouvel Observateur, et passé bien sûr inaperçu dans la presse occidentale, Zbigniew Brzezinski, conseiller pour la sécurité nationale du président américain Jimmy Carter, confirmait cette information. Brzezinski est le principal architecte de l'opération américaine contre les communistes en Afghanistan à partir de décembre 1979, mais surtout contre l'Union soviétique et l'armée rouge en utilisant les moujahidines islamistes. Inutile de rappeler, chers auditeurs, que c'est cette opération qui a enfanté Oussama Ben Laden, le grand ordonnateur du terrorisme international d'obédience salafiste, de ces 3 dernières décennies jusqu'à l'apparition de Daesh en Irak et en Syrie. Alors, nommer la Russie comme promoteur du terrorisme international, est-ce bien raisonnable? Et que dire des États-Unis et de leurs alliés? Pour analyser les tenants et les aboutissants de cette résolution, l'Afrique en marche reçoit Ferhat Haïtali, ex-ministre algérien de l'industrie.
Monsieur Ferhat Haïtali, bonjour et merci de nous avoir accordé encore une fois cet entretien et de nous avoir réservé un peu de votre temps.
Bonjour, avec plaisir.
La première question, Monsieur Haïtali, elle concerne la résolution qui vise à reconnaître ou à identifier la Russie comme un sponsor du terrorisme international. Et dans ce projet de résolution, il y a aussi l'idée de créer un tribunal international pour juger les autorités russes, à leur tête évidemment le président Vladimir Poutine, sur cette question-là de parrainage du terrorisme et donc avec ce qu'il engendre des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Alors, ma première question, Est-ce que ce n'est pas un peu l'hôpital qui se fiche de la charité avec cette proposition?
Bon, justement, je crois que cette résolution, elle appelle plus de questions que de réponses. Parce que maintenant, il va falloir revenir à la case départ pour voir un petit peu quelle est la conception du terrorisme chez les Occidentaux. Et aussi revenir à la structuration de ce fameux Parlement européen qui est pratiquement un Parlement supranational, qui est dont manifestement les députés essaient de transcender les parlements nationaux, justement, des pays européens. Mmh. Parce que à partir du moment où il y a un Parlement supranational qui représente une organisation continentale qui n'a pas de consistance politique réelle en matière de pouvoir de décision sur les gouvernements, prend le dessus sur les volontés nationales de ses membres, c'est déjà une forme de terrorisme politique. D'une certaine manière, à partir du moment où des députés qui pratiquement prétendent gérer la destinée de 27 pays et de presque 400 millions d'individus à partir d'une capitale où personne ne les a mandatés pour ça, il n'existe pas de président de l'Europe pour qu'il puisse y avoir un Parlement européen.
Cette résolution, excusez-moi, juste pour rappel pour nos auditeurs, elle n'est pas contraignante, elle n'a pas de caractère contraignant, mais nous comprenons bien que c'est à des buts médiatiques pour diffuser des informations.
Fort heureusement qu'elle n'ait pas un caractère contraignant, parce que si ce nouveau machin que dénommé Parlement européen avait un pouvoir de contrainte en matière de décision, Madame von der Leyen aurait déclenché une guerre mondiale depuis très longtemps, oui. Au vu de ses déclarations, et c'est pratiquement, elle se prend pour le Frédéric le Grand, elle se prend pour le dernier empereur du Saint-Empire romain germanique, quelque part. C'est qu'elle aurait dans une croisade à l'Est, chez les Slaves. Oui. Mais ceci dit, maintenant, allons vers la définition déjà du terrorisme tel qu'il est perçu par ces personnes-là et tel qu'il est perçu par le reste du monde. Et il y a une définition générale du terrorisme qui définit tout acte touchant pratiquement des civils et de nature à imposer un pouvoir, une vision, une condition donnée par la contrainte sur des populations civiles. À partir de là, on peut dire que l'Occident en est à son 5e ou 6e siècle en la matière.
Je rappelle que c'est la définition qui est donnée par les Nations Unies au terrorisme.
Oui. Voilà, c'est la définition la plus logique qui soit. Mm-hmm. Mais maintenant, on commence à sentir que dans cette histoire-là, le terrorisme, c'est tout ce qui touche une certaine minorité occidentale représentant peut-être globalement 1 milliard d'individus sur 8 milliards. Et la légitime défense, c'est tout ce qui peut éventuellement toucher, y compris par la terreur, les 7 milliards restants. Donc, à partir du moment où vous êtes inscrit sur les tablettes de cette composante de l'humanité qui se croit suprahumaine, vous êtes victime du terrorisme. Mais maintenant, si vous êtes inscrit dans la tablette inverse et que vous essayez de défendre, y compris vos intérêts nationaux, vous êtes inscrit ou terroriste ou sponsor du terrorisme. Je crois même dans les années 90, parce que nous autres Algériens, on avons quand même un certain avant-goût du terrorisme avant presque tous les autres. Terrorisme à grande échelle. Et c'était des terroristes. Des terroristes, je dirais, avec un projet archaïque, un projet criminel qui était destiné à détruire l'État national, avant de s'attaquer plus tard à la Syrie, à la Libye, à d'autres pays. Mais bon, nous étions peut-être les précurseurs comme victimes et aussi les précurseurs comme résistants à cette forme criminelle de perception des relations sociales et politiques. À cette époque-là, on ne traitait pas de terroristes en Occident, les criminels qui étaient hébergés, qui le sont encore d'ailleurs dans certains capitales, et qui pratiquement mettaient de l'huile sur le feu. Certains même envoyaient des armes, ne condamnaient pas le terrorisme, au contraire, l'encourageaient. Oui. Il y avait même qui n'étaient pas algériens, qui étaient dans une capitale européenne en train de chauffer les gens pour déclarer le peuple algérien impie. Mmh. Donc, s'il y a une nation qui sait exactement ce qu'est le terrorisme et qui l'a vécu dans sa chair, c'est bien la nation algérienne dans les années 90, avant tout le monde.
Je rappelle que durant cette période, en aucun moment, par exemple, les États-Unis n'ont considéré ce qui se passait en Algérie comme du terrorisme. Ce n'est qu'en 97, c'est-à-dire à peu près 5 ans. Après le début des exactions terroristes en Algérie et après les attentats d'Al-Qaïda à Dar es Salaam et je ne me rappelle pas quel autre.
Il y avait au Yémen aussi contre un croiseur américain.
Mais c'était contre des ambassades. C'est à partir de là que les Américains ont commencé à changer leur phraseologie et leur définition en disant que ce qui se passe en Algérie, c'est du terrorisme. Sinon, avant, ils considéraient ça comme de la résistance armée.
En 94, ils considéraient ça comme étant légitime face à l'arrêt d'un supposé processus électoral qui devait mener ces gens-là au pouvoir. D'ailleurs, c'est le même scénario qui s'est répété dans d'autres pays, y compris en Égypte, au début de la reprise des choses en main par les autorités égyptiennes en 2013. Mais en Algérie, je me souviens très bien qu'on considérait tous les terroristes algériens comme étant des combattants en légitime défense. Comme d'ailleurs, toute la nébuleuse criminelle qui traînait en Afghanistan durant les années 80 était considérée comme des freedom fighters. Oui. Curieusement, les mêmes freedom fighters sont devenus des terroristes en 2001. Ils ont été bombardés massivement d'ailleurs. Donc maintenant, parler de la Russie comme sponsor du terrorisme, encore faudrait-il définir quelles sont ces organisations terroristes que la Russie a soutenues ou sponsorisées durant les 40 dernières années. Parce que côté occidental, je peux en citer au moins une centaine d'organisations terroristes de tout poil et en tout genre qui ont été armées, financées, sponsorisées jusqu'à présent idéologiquement. Pas soutenu, peut-être condamné idéologiquement, mais en catimini soutenu sur le certain de pseudo-revendications politiques de ces organisations.
Alors, pour rebondir directement sur ce que vous avez, l'avant-goût que vous donnez à cet entretien, en commençant par cet aspect-là, si on se concentre uniquement sur le terrorisme d'obédience islamiste, et je suis tout à fait d'accord avec vous, quand vous dites que ce sont des centaines d'organisations terroristes, mais bien avant l'apparition de celui d'obédience islamiste. Même les FARC, le trafic de drogue, tous les mouvements terroristes qui ont ravagé ou empêché l'épanouissement des pays de l'Amérique latine, il n'y a aucun doute sur le lien qu'ils entretiennent avec la CIA ou avec les circuits de blanchiment de l'argent sale qui mènent jusqu'à Wall Street et compagnie. Ce sont d'ailleurs un rapporteur des Nations Unies qui a dit que Antonio Maria Costa, qui était le responsable de la lutte contre le trafic des stupéfiants, qui avait dit que après la crise de 2008, la majorité des banques occidentales ont été sauvées, en tout cas américaines, sauvées avec l'argent de la drogue.
Bien. N'allons pas très loin. En parlant justement de formes de terrorisme non idéologiquement décrites comme islamistes, il y a un moment donné, on a considéré les sandinistes comme des terroristes, chez eux, au Nicaragua. Je me souviens que le gouvernement algérien de l'époque soutenait les sandinistes parce qu'on était plus ou moins dans le même camp et a raison d'ailleurs de les soutenir. Mais plus tard, les États-Unis d'Amérique ont mis des contrats qui sont de vrais terroristes.
Des contrats.
D'ailleurs, on les appelait des contrats parce qu'eux-mêmes s'appelaient contre-révolutionnaires, qui étaient de vrais terroristes et qui se sont retrouvés impliqués après dans la guerre Irak-Iran. Avec toute une histoire de trafic de cocaïne qui devait financer en catimini les Iraniens, mais aussi financer officiellement les Irakiens pour mettre le feu aux poudres et plomber les deux pays d'ailleurs. C'est pour ça que la guerre a duré des deux côtés. Ceci dit, les contrats au Nicaragua ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas gouverner. D'ailleurs, les Sandinistes sont revenus au pouvoir par des élections démocratiques. Ce que les Occidentaux n'ont pas reconnu jusqu'à aujourd'hui. Ils ne sont pas en très très bons termes avec les Sandinistes au Nicaragua. Dans le reste de l'Amérique latine, quand ce n'est pas des mouvements terroristes, c'était tout simplement des gouvernements terroristes qui étaient financés, si mes souvenirs sont bons. Il y avait même Pepsi Cola qui avait aidé à financer le coup d'État contre Allende au Chili.
Oui, au Chili, oui. C'est la terre organisée par le général Pinochet.
Donc, en parlant de mouvements et de gouvernements rock states, comme ils les appellent en Occident, les États-Unis ne sont pas friands de cocaïne parce qu'ils ont empoisonné les États-Unis d'Amérique, parce que cette cocaïne, c'est la drogue des riches. Donc, elle était destinée pratiquement à la société américaine, particulièrement la société UP. C'est ce qui dérangeait un petit peu la DEA. Mais en Afghanistan, après l'arrivée des Américains en 2001, l'opium qui avait presque disparu sous les talibans, qui ne sont pas ma tasse de thé, entre guillemets. Les talibans, même à l'origine, ont été une créature au Pakistan des combines américaines. Mais il se trouve que, quand même, côté drogue, j'étais d'accord avec eux sur ce volet-là, du moins, d'élimination d'une drogue du pauvre, justement, parce qu'elle fait de l'héroïne basse qui est destructrice pour les pauvres, y compris, tiens, en parlant de Russie, en Russie, qui était dans le voisinage immédiat. Eh ben là, les Américains, curieusement, à partir de 2000, entre 2001 et 2010, la production est revenue à la...
Multipliée par 8. Elle a été multipliée par 8.
Donc, même en matière de drogue, certaines drogues qui empoisonnent l'Occident sont criminelles, mais certaines drogues qui empoisonnent les autres, elles sont les bienvenues, manifestement du moins, même si on les condamne officiellement, mais officieusement. Je suis curieux de savoir comment une puissance qui contrôlait l'Afghanistan, avec une coalition de 20 pays, a laissé proliférer la culture d'opium, l'a multipliée par 8. Ce qui est curieux, c'est qu'elle l'a contrôlée sans qu'il y ait une puissance. Par exemple, la Russie n'a jamais saboté les efforts américains, supposés efforts américains, pour stabiliser l'Afghanistan. Alors que dans les années 80, l'Union soviétique était en guerre contre le reste de l'Occident en Afghanistan, comme aujourd'hui d'ailleurs en Ukraine.
Justement, je voulais justement, à partir de ce que vous voulez dire, venez de dire, revenir un peu pour retracer un peu la lignée du développement de ce terrorisme. Donc, je rappelle que l'une des grandes figures de la politique extérieure américaine, Zbigniew Brzezinski, est l'un des architectes de la guerre contre l'Union soviétique en Afghanistan, en tentant de renverser le pouvoir communiste en Afghanistan. Donc, il est d'ailleurs célèbre avec son livre « Le Grand Échiquier », publié en 1997 et réédité en 2004 sous le titre « Le vrai choix ». Donc, il y a un fait quand même qui est, bien sûr, qui montre un peu l'ambivalence des médias occidentaux. Robert Gates, l'ancien patron de la CIA, avant qu'il devienne ministre de la Défense sous George Bush, Walker Bush, écrivait dans ses mémoires, je cite, « Les services secrets américains ont commencé à aider les Moudjahidines afghans 6 mois avant l'intervention soviétique. » 6 mois avant l'intervention soviétique. Et dans une interview explosive donnée le 15 janvier 1998 au Nouvel Observateur et qui a été passée sous silence par la presse occidentale, Brzezinski lui-même confirme cette affirmation en disant, je cite, « Oui, selon la version officielle de l'histoire, l'aide de la CIA au Moudjahidine a débuté en courant 1980, c'est-à-dire après que l'armée soviétique eut envoyé l'Afghanistan, le 24 décembre 1979, mais la réalité gardée secrète, c'est lui toujours qui parle, et tout autre, c'est en effet le 3 juillet 1979 que le président Carter a signé la première directive sur l'assistance clandestine aux opposants du régime pro-soviétique de Kaboul. Et ce jour-là, c'est toujours lui qui parle, j'ai écrit une note au président dans laquelle je lui expliquais qu'à mon avis, cette aide allait entraîner une intervention militaire des soviétiques. Donc, j'aimerais bien, c'est-à-dire, tirer un peu le parallèle de ce qui s'est passé dans cette période-là avec ce qui se passe actuellement en Ukraine et qui apparemment donne l'élan à ces eurodéputés qui veulent faire de la Russie le sponsor du terrorisme, parce que Brzezinski, le journaliste qui était un peu donc effaré par la réponse du secrétaire d'État à la sécurité nationale, il lui dit « Mais est-ce que au moins vous regrettez ce que vous avez fait ?» Il répond, Brzezinski répond « Qu'est-ce qui est le plus important au regard de l'histoire du monde ? Les talibans ou la chute de l'Union soviétique ?» Quelques excités islamistes ou la libération de l'Europe centrale et la fin de la guerre froide. Donc voilà un peu le tableau. Pour la question, Montesquieu disait « Ceux qui sont les vrais responsables des guerres, ce ne sont pas ceux qui les déclenchent, mais ce sont ceux qui les rendent inévitables. »
C'est une évidence.
Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça?
Nous venons de dire que 6 mois avant l'intervention soviétique à Kaboul en 79, sous l'impulsion de Brzezinski, les Américains avaient commencé déjà à financer des mouvements, je dirais, traditionnalistes et archaïques. Curieusement aussi, quelques mois avant, le régime a changé au Pakistan. Mmh. Où il y a eu un coup d'État où Al-Haq est devenu le président. Et c'était vraiment le président des fondamentalistes, même au Pakistan. Donc, il y avait un plan déjà de l'Union soviétique à l'époque. Brejnev était trop vieux pour aller déclencher une opération externe à 3000 km de Moscou s'il n'y avait pas une urgence absolue. Et cette urgence-là se sentait d'ailleurs plus tard, après, on a compris. En Ukraine, c'est un petit peu beaucoup plus avant. C'est même à l'époque de Yanukovych. Donc, l'intervention occidentale qui rendait un jour ou l'autre inévitable une intervention russe en Ukraine date de plus de 10 ans, elle ne date pas de 6 mois. Mm-hmm. Donc, il y a eu beaucoup plus de patience de la part de la Russie actuelle que du pouvoir soviétique de l'époque. C'est une patience qui a trop duré. Maintenant, pour revenir à Brzezinski, comme il a un patronyme à consonance polonaise, il est polonais d'ailleurs. Et il se trouve que à chaque fois que l'Europe est entrée en guerre à l'Est, un certain establishment polonais a toujours été quelque part derrière ou devant, en devançant les événements. Et ce, depuis l'époque de la fameuse coalition polono-luthérienne, à l'époque médiévale. Je crois que Brzezinski a joué exactement le même rôle que la fameuse comtesse qui a envoyé Napoléon à Moscou. Une comtesse polonaise qui l'a envoyé à Moscou. Mais évidemment, le résultat, tout le monde le connaît. Le grand Bonaparte, que j'admire beaucoup, pour beaucoup de côtés d'ailleurs stratégiques et même administratifs et politiques, a fini avec l'histoire de la Bérézina, qui est restée dans les annales aujourd'hui comme étant une sorte de patronyme collectif pour toutes les faillites, qu'elles soient financières, politiques ou militaires. Mais bon, Bonaparte a perdu son trône et la France a perdu sa prééminence parce qu'elle a suivi justement certains conseils qui il envoyait toujours à l'Est. Aujourd'hui, je crois que ces députés-là, ils sont en train de jouer exactement le même rôle que cette fameuse comtesse polonaise, histoire d'essayer de mettre toute l'Europe dans une fausse coalition contre un pays que, de toute façon, le reste du monde n'a jamais considéré comme terroriste. Moi, personnellement, je crois que depuis que je suis enfant, je n'ai pas assisté à un terrorisme ici ou ailleurs soutenu par l'Union soviétique ou la Russie. Qui pour moi sont équivalentes à l'époque. Donc même si les Américains ont considéré le Viet Minh et le Viet Cong comme étant des terroristes potentiels parce qu'ils menaçaient de l'hégémonie dans le sud-est asiatique, à cette époque-là, nous on les considérait pas comme tels, on les considérait comme des mouvements de libération. Pratiquement quand on s'est opposé à tous les mouvements d'émancipation en Afrique, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en les qualifiant de terroristes, on peut éventuellement qualifier le pays qui les a le plus soutenus de terroristes. Par contre, quand on prend la chose en sens inverse, quand on considère que ces gens-là n'ont fait que libérer leur pays, ce qui est effectivement vrai, on peut considérer que le terroriste c'était celui ou bien qui les attaquait ou celui qui soutenait les contre-révolutions locales. C'est que comme on en voit là, quand à un moment donné, les Portugais sont partis parce qu'il y a eu la fameuse révolution des Roses, juste après, l'UNITA a été créée. Et elle a été soutenue par l'Afrique du Sud de l'apartheid et avec l'aval de tout l'Occident. Donc maintenant, si on considère, il y avait 2 mouvements à l'époque en Angola. Moi, j'avais mon parti, je l'ai toujours d'ailleurs. Pour moi, c'était les libérateurs de l'Angola, du colonialisme portugais qui était mon camp. Mais maintenant, pour d'autres, c'était des terroristes et c'était l'unité des libérateurs. Cette vision du terrorisme, elle ne peut pas être unilatérale, mais elle a quand même une définition globale. Quelle est la finalité d'un acte de violence, qu'il soit individuel, collectif ou je dirais semi-collectif, de groupuscule? Si cette finalité consiste à imposer par la terreur une certaine vision du monde ou des intérêts qui dépassent les intérêts du pays cible, c'est du terrorisme pour moi. Maintenant, si cette finalité consiste justement à défendre ses propres intérêts, les intérêts de ses citoyens contre une agression, qu'elle soit externe ou intermanipulée par l'extérieur, ce n'est pas du terrorisme. Mais quand on se place dans la catégorie de bandits planétaires, Ben forcément, on qualifie de terroristes tous les gens qui osent s'opposer justement au véritable terrorisme.
Et justement, pour continuer donc dans la même voie, c'est quand même la Russie qui a aidé à vaincre le Daesh, ou ce qui s'appelle entre guillemets l'État islamiste en Syrie. Et c'est le terrorisme, les terroristes et l'armement qui est venu dans ce pays et a été acheminé de la Libye via la Turquie, un pays membre de l'OTAN, dans l'OTAN. Et la Libye, c'est un pays qui a été détruit par l'OTAN sous l'instigation de la France. Des tonnes d'armes ont été parachutées, non seulement pour, soi-disant, donner les moyens à ceux qui résistaient contre Kadhafi de tenir le coup, mais finalement, toutes ces armes-là se sont réparties dans le Sahel et ont donné du sang nouveau au mouvement terroriste, donc qui subsistait depuis très longtemps dans cette région. On se demande d'où vient cette facilité à plier la page comme ça de l'histoire, bien que c'est une histoire récente, et dire, aller accuser ceux qui ont combattu justement le terrorisme d'être les premiers sponsors du terrorisme international.
À la crainte de vous décevoir, parce que c'est comme si vous étiez en train de faire une plaidoirie devant un jury du Ku Klux Klan alors que vous êtes noir. Donc ces gens-là, pratiquement, ils ne vont pas entendre cette plaidoirie logique. Napoléon Bonaparte disait que la défaite est orpheline et que le plus grand crime, justement, dans la vie, c'est la faiblesse. La faiblesse, la soumission ou la défaite, bien sûr. Ça, c'est des crimes. À partir de là, on peut vous accuser de tous les autres crimes. Aujourd'hui, moi, j'estime que la Russie et beaucoup d'autres pays résisteront jusqu'au bout, parce que c'est une lutte existentielle, ce n'est pas un conflit, comme on le prétend, localisé ou régional, ou quand on arrive pratiquement sous la porte de quelqu'un pour lui imposer un diktat, c'est pour aller au-delà de la porte. Donc, si la Russie et accessoirement la Chine aussi, qui sont aujourd'hui considérés comme des menaces pour une hégémonie donnée, étaient justement programmés pour tomber dans l'escarcelle occidentale ou bien pour reculer au plan de développement économique ou même civilisationnel, le reste du monde, ils n'en feront qu'une bouchée. Et donc, à partir de là, ces gens-là considèrent, comme au 19e siècle, des populations primitives étaient considérées comme des sauvages chez eux, chez elles. Et quand on considère que des millions d'Indiens d'Amérique ou d'Aborigènes d'Australie étaient des sauvages et n'étaient pas fondés à attaquer des colons, mais devaient se soumettre ou disparaître, elles ont disparu d'ailleurs en grande partie. Parler de crimes contre l'humanité, contre des formes d'existence humaine ont totalement disparu dans certains continents, il faut avoir un sacré culot quand même. Ça ne s'est pas passé même dans la Russie des Tsars. La Russie des Tsars, qui était pratiquement en conflit permanent à l'ouest et à l'est, y compris avec les Tatars, n'a pas exterminé les peuples asiatiques de l'Asie centrale qu'elle a vaincu, ou qu'ils l'ont vaincu à un moment donné. Ils sont arrivés quand même à une entente qui dure jusqu'à ce jour. Pratiquement jusqu'à ce jour, vous allez jusqu'en Ouzbékistan, au Tadjikistan, alors que tout ça, c'était des peuples qui, à l'origine, avaient leur soif de conquête, comme tous les peuples du monde à cette époque-là. L'humanité était faite de conquête et de contre-conquête. Donc, ces peuples-là, à cette époque-là, étaient agressifs, mais à ma connaissance, elles n'ont pas disparu, même sous la défaite. Ce qui n'est pas le cas de tous les peuples qui ont été soumis justement à des attaques en règle, sans avoir de frontières communes avec les Occidentaux. Les Indiens du Nouveau Continent, ils ont été abordés à partir du Vieux Continent, donc ils étaient à 5000 kilomètres. Ils ont disparu presque. Je ne vois pas comment quelqu'un qui considère que être chez vous et ne pas répondre à ses normes ou bien à ses oukas lui donne le droit de vous faire disparaître, puisse parler quand même de crimes contre l'humanité avec autant de culot. C'est comme ce qu'on discutait la dernière fois de la fameuse mémoire commune qu'on doit rediscuter avec l'agresseur du passé, qui maintenant, on doit lui expliquer pourquoi un jour donné, à une heure donnée, un Algérien donné a tiré sur un Français donné en Algérie. Pour essayer de faire l'équilibre, alors que tout ce problème-là ne serait jamais posé si tout ce bon monde n'avait jamais débarqué chez nous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, au niveau de ce supra-parlement, il n'est pas question de droit. Il n'est pas question de logique, il est question maintenant de pousser ou bien de pousser la Russie dans ses derniers retranchements, mais aussi c'est une démonstration que c'est l'Occident qui est arrivé à ses derniers retranchements. Parce que quand on arrive à ce genre d'extrémité, même si elles ne sont pas applicables dans la pratique, elles ne sont pas contraignantes, mais quand on y arrive philosophiquement, c'est qu'on n'a strictement pratiquement aucune autre issue. Et je crois qu'au niveau de ce Parlement, qui des fois défie les gouvernements nationaux, beaucoup ont peur justement que des parlements nationaux européens et des gouvernements européens ne puissent justement revenir à une relation beaucoup plus logique avec la Russie. C'est quand ils sont en train de sentir que la boîte noire qu'ils avaient établie à Bruxelles pour contrôler les peuples et les gouvernements européens doit réagir avant que ces mêmes gouvernements, sous la pression de leur peuple, ne fassent demi-tour contre cette fausse croisade contre la Russie.
D'accord. Je vous remercie, Monsieur Aitali, pour cette première partie de notre entretien. Je vous retrouve dans quelques instants.
Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est Ferhat Aitali, ancien ministre algérien de l'Industrie. En résumé de cette première partie, selon notre interlocuteur, la plus importante conclusion à tirer de la résolution qui désigne la Russie est un sponsor du terrorisme et que les Occidentaux ne savent plus à quel sens se vouer pour trouver une échappatoire à leur déboire face à la Russie. Outre cela, pour Ferhat Aitali, les nouvelles élites politiques européennes font preuve d'une ignorance historique et d'une incompétence sidérale, à tel point que leurs actions se résument actuellement à des gesticulations médiatiques infantiles. Chers auditeurs, je vous invite à rester avec nous pour la seconde partie de notre émission « L'Afrique en marche ». Nous aborderons avec Ferhat Aitali la demande d'un groupe d'eurodéputés à la Commission européenne de réviser les accords d'association avec l'Algérie. Nous nous pencherons également sur les effets néfastes de ces accords sur l'industrie algérienne et sur les moyens de la relancer. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission Afrique en marche, présenté par Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Les accords d'association de l'Algérie avec l'Union européenne sont en vigueur depuis 2005. Fin 2019, le bilan était catastrophique pour l'économie algérienne qui a importé pour 285 milliards d'euros de l'Europe. En revanche, Alger a exporté hors hydrocarbures seulement 12 milliards d'euros. Ferhat Aitali fait partie des économistes qui ont dénoncé ces accords depuis leur conclusion en 2002. À son entrée au gouvernement en janvier 2020, il a activement participé à la décision de geler ces accords et au renvoi au calendrier grec de l'application de l'accord de libre-échange avec l'UE. Pour lui, l'incompétence et l'ignorance des eurodéputés est du pain béni pour l'Algérie, pourvu que ça dure. Visiblement, une fois de plus, le bon sens est porté disparu au Parlement de l'Union européenne.
Monsieur Ferhat Aitali, rebonjour et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien et qui sera consacrée toujours aux résolutions tonitruantes du Parlement européen qui vient de décider aussi pour appeler la Commission européenne à revoir les accords d'association avec l'Algérie et l'accord de libre-échange parce que l'Algérie est devenue, par sa politique extérieure, un allié indéfectible de la Russie. Et comme d'habitude, les Européens, quand quelqu'un est leur ennemi, donc il doit être l'ennemi de tout le monde. Qu'en pensez-vous? Et ma mémoire ne me trahit pas, je crois que vous étiez aux affaires lorsque le gouvernement algérien, justement, a suspendu certaines clauses des accords d'association avec l'Union européenne, parce que tout simplement, toutes les années depuis le début de l'application de ces accords en 2005, les intérêts ont été servis dans un seul sens, c'est-à-dire celui de l'Europe. Si je me rappelle bien, il y a eu environ 285 milliards de dollars d'importation de l'Algérie ou d'euros d'importation de l'Algérie de l'Union européenne, alors que les exportations algériennes, je dirais, en dehors des là où il y a de la valeur ajoutée, c'est-à-dire en dehors des matières premières, notamment des hydrocarbures, n'ont pas dépassé, si ma mémoire est bonne, les 12 milliards de dollars. Alors, si l'on reprend la logique comme vous l'avez développée dans la première partie de notre entretien, je peux dire que Madame Zakharova, donc la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a raison en disant qu'il faut identifier le Parlement européen comme un promoteur de la débilité politique.
Vous êtes étonné, pour une fois, je les soutiens. Vous savez pourquoi je les soutiens?
Oui.
Parce qu'on parle justement de révision de ces fameux accords. Moi, personnellement, depuis 2005, j'étais pour leur quasi-dénonciation, et non pas pour leur révision. Eux n'acceptent pas de réviser. Ce qui est curieux, c'est que ce fameux Parlement-là, pourquoi je les soutiens? Parce que ce fameux Parlement ignore que la Commission européenne, c'est elle qui a refusé de renégocier et de réviser ces accords, qui sont pratiquement unilatéraux, qui peuvent être pratiquement, on peut dire, un outil, non seulement d'enrichissement de l'Europe par le biais du libre-échange à sens unique, mais aussi qui ont été un étui de désertification économique et industrielle en Algérie. Donc, ils ont toujours été partisans d'une révision globale de ces accords ou bien de leur dénonciation, parce qu'à un moment donné, justement, ils refusaient de les renégocier. Ils ont accepté une renégociation en 2017 sous l'ancienne équipe qui dirigeait l'Algérie, qu'on nous a donné un délai supplémentaire pour le démantèlement tarifaire complet de 3 ans, justement, qui devait échoir en 2020. En 2020, connaissant avec la crise du corona, connaissant déjà les moyens financiers de l'Algérie, faire pression sur l'Algérie pour justement un démantèlement tarifaire total était à mes yeux criminel et révélateur aussi de la nature exacte de ce genre d'accord et des gens qui ont essayé de conclure avec nous, qui ont réussi à les conclure avec nous plutôt en 2001. Donc, ces gens veulent une emprise sur le monde, et comme on fait partie du monde et qu'on a des ressources, ils ont trouvé quand même un moyen de nous maintenir en statut de principal fournisseur de ressources, ni plus ni moins, et aussi de clients captifs pour des produits européens qui n'étaient plus compétitifs, on peut dire, tellement qu'ils n'étaient pas compétitifs. Le marché asiatique qui nous fournit sur beaucoup de produits qui étaient précédemment achetés en Europe, arriver à être concurrentiel et à nous exporter plus de produits en paiement de droits et taxes excessives contre une Europe qui n'avait strictement plus aucun droit et taxes à payer. Donc, avec tout, justement, ces avantages comparatifs en matière de privilèges douaniers, l'Europe n'était plus compétitive. Mais malgré ça, il maintenait justement cette position de ne rien vouloir réviser. Aujourd'hui, vous avez des députés qui demandent à réviser comme si cet accord-là, multilatéral, dans lequel l'Algérie était face à une meute, était justement en notre faveur, comme s'il y avait un cadeau dans cet accord. Et pourquoi? Je vous dis que je les soutiens. Absolument. Je les soutiens parce qu'ils sont tellement idiots qu'ils demandent à leur fameuse commission européenne de faire exactement ce que nous nous demandons depuis des années. Mais bon, je ne crois pas que la commission va les suivre, parce que manifestement, ils n'ont pas lu les chiffres et ils n'ont pas lu les résultats désastreux de cet accord sur l'Algérie, et non pas sur l'Europe.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'il y a dans les clauses de ces accords et qui ont empêché justement l'épanouissement de l'industrie algérienne, et voire elle a été complètement détruite. C'est, comme vous avez dit, c'est une désertification totale, et je suppose que c'est la même chose dans tous les pays africains qui ont des accords d'association avec l'Union européenne. Quelle est la mécanique que ces accords mettent en place et qui empêche justement le développement de toute industrie locale de transformation?
C'est une mécanique multiple, mais le point principal est justement le libre-échange douanier. c'est les détaxes pour les produits européens, c'est une sorte de priorité pour leurs produits qui empêche l'émergence d'une industrie locale. C'est aussi des promesses d'investissement qui n'arrivent jamais, que de toute façon n'ont jamais été concrétisées. Et là, ils avaient quand même un alibi de taille. Et quelque part, je ne pouvais pas leur répondre de manière cohérente sans me déjuger. Parce que, au même moment, l'administration algérienne de l'époque avait élaboré tout un arsenal de textes qui empêchaient tout investissement sérieux, qui orientait justement les gens vers des investissements, comme on en connaît beaucoup, qui ont fini entre les mains de la justice. Donc, eux, ils pouvaient toujours dire, écoutez, vous n'avez pas respecté chez vous déjà certaines clauses de cet accord en matière de liberté d'entreprendre. Mais il n'a jamais été question pour eux, parce que je me rappelle très bien, quand on avait fait certaines règles contraignantes pour l'investissement sérieux, la plupart des ambassadeurs des pays intéressés par cet accord d'association applaudissaient des deux mains ces mesures du gouvernement algérien de l'époque, parce qu'elles servaient exactement leur dessein. Laisser le pays en jachère et le laisser comme étant une sorte de client captif et de fournisseur captif pour les ressources. Il y avait aussi certaines clauses sur les droits de l'homme. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi ces gens-là s'offrent le droit de parler des droits de l'homme de manière unilatérale. Je n'ai pas compris aussi comment des gouvernements peuvent discuter de leur propre souveraineté en la matière avec des partis qui n'ont pas qualité normalement pour en discuter, particulièrement sur un accord multilatéral.
Je peux juste rebondir sur ce point-là et puis je vous laisse continuer à développer. On peut dire que dans les accords d'association avec l'Union européenne, notamment sur ce point-là des droits de l'homme, alors tous les pays qui ont ce genre d'accord avec l'Union européenne peuvent aller dire à certains pays européens, la France en l'occurrence, avec tout ce qui était passé avec les gilets jaunes, excusez-nous, mais votre façon de voir les droits de l'homme est quand même un peu biaisée. Qu'est-ce que c'est cette façon-là de brutale d'aller tabasser les gens dans la rue et qui manifeste d'une manière pacifique, et c'est juste pour libérer des droits professionnels ou sociaux.
Donc, écoutez, on va revenir là-dessus en matière de droits de l'homme, en oubliant pratiquement les excès qu'ils ont commis chez eux contre leur propre population, parce que de toute façon, ils ne vous permettront pas de les juger en la matière. Et eux, ils se sont érigés en juges universels et exclusifs. C'est eux qui parlent de droits de l'homme. Quand un seul pays signe un accord multilatéral avec une multitude de pays qui représentés par une entité supranationale et qu'il accepte de parler de respect des droits de l'homme, ça veut dire que lui-même s'est soumis à une sorte de jugement d'arbitrage en la matière. Et ça, c'était une erreur monumentale à ne pas commettre. À l'époque, bon, je pourrais comprendre qu'après la crise des années 90, certains aient pensé qu'il fallait faire une petite concession pour ne pas se retrouver encerclé par une meute, surtout que nos moyens financiers à l'époque n'étaient pas géniaux. À un moment donné, bon, certaines concessions, même si elles sont inadmissibles, elles sont compréhensibles en termes tactiques. Mais plus tard, il aurait fallu en les rediscuter. En 2020, on s'est retrouvé quand même face à le gros témoin en matière de négociation, auquel j'avais dit que en matière de droits de l'homme, parce qu'ils nous ont sorti cette histoire-là de droits de l'homme, alors que pratiquement en Algérie, on ne peut pas parler d'une situation parfaite, mais qui est meilleure que pratiquement le reste du bassin méditerranéen, d'une certaine manière, en matière de droits sociaux, de droits humains. Bon, on nous a sorti quelques détenus qui étaient des détenus pratiquement dans des prisons connues, civiles, enfin, détenus de la justice, selon les procédures judiciaires. Maintenant, on peut dire ce qu'on pense entre nous de cette procédure, mais bon, la plupart sont terminés d'ailleurs par des libérations et des acquittements. Mais je leur ai dit à l'époque que vous me sortez cette histoire de droit de l'homme, mais en même temps, il y a un article sur le libre-échange, sur le démantèlement tarifaire. Il faudrait peut-être commencer par votre véritable objectif. Alors que dans le voisinage immédiat, en matière de droits de l'homme, des pays qui ont offert toutes les concessions possibles et imaginables en matière économique, en matière de souveraineté, dans le voisinage, quand je dis voisinage vraiment immédiat, en termes de droits de l'homme, il n'y a pas de détenus, il y a des disparus. Personne en prison avec des avocats, il y a des gens qui ont quasiment disparu. et non pas pour des crimes politiques énormes, mais juste pour avoir contesté le caïd ou le petit maire du coin. Alors maintenant, au lieu de venir nous enquiquiner avec cette histoire de droit de l'homme pour arracher des concessions, d'ailleurs, s'ils avaient arraché la concession du démantèlement tarifaire total, ils auraient mis en sourdine l'histoire des droits de l'homme pour un certain temps. C'est l'erreur d'ailleurs de beaucoup de opposants, entre parenthèses ou entre guillemets, dans certains pays du tiers-monde, y compris le nôtre, c'est de croire que ces gens-là sont des soutiens potentiels en matière de droits de l'homme, alors qu'ils sont eux des outils de chantage économique, de chantage politique et géostratégique pour ce genre de commission. Moi, j'étais contre les accords multilatéraux. Premièrement, l'Algérie n'est pas prête au libre-échange. Quand on est client de tout et fournisseur de rien, le libre-échange est une blague de mauvais. Au contraire, il accentue la dépendance en matière de statut de client captif. Deuxièmement, nous avons des amis en Europe. Nous avons des États traditionnellement amis. Et nous avons d'autres un peu moins amis, d'autres adversaires, tout simplement. Donc, avoir un accord multilatéral qui offre tout sans rien réclamer en échange, ça met même les pays potentiellement amis en Europe en position difficile vis-à-vis des autres. Pourquoi diable ce pays, par exemple, je vais vous dire l'Italie qui est un allié traditionnel, un ami traditionnel, pourquoi il va faire des concessions alors qu'il a tout eu en multilatéral à travers cet accord? En plus de ça, il a les mêmes avantages qu'un pays quasiment ennemi du nôtre. Mmh. Donc, les accords multilatéraux servent justement à détruire les relations bilatérales. Il existe en Europe, effectivement, des pays avec lesquels on peut coopérer, avec lesquels on a coopéré même durant notre révolution. Et ces pays-là, ils ont besoin éventuellement d'une relation bilatérale solide, avec des concessions et des avantages réciproques qui ne doivent pas être parasités par ce genre d'accords justement multilatéraux qui empêchent toute discussion bilatérale sérieuse avec les alliés sérieux.
D'accord. Et que pensez-vous de cette jonction entre cet appel à renégocier apparemment de gens novices qui ne connaissent pas le dossier, comme vous venez de le développer, et pour imposer un changement de cap à la politique extérieure de l'Algérie et à ses alliances stratégiques avec la Russie?
Ces gens-là croient que les relations extérieures d'un pays, c'est comme une voiture, une petite cylindrée qu'on peut garer quand on veut et démarrer dans n'importe quel sens pour aller faire des courses. Les relations Algérie-Russie, Algérie-Chine, avec ça beaucoup d'autres pays, sont des relations stratégiques et historiques. Même s'ils venaient à l'idée, ici, chez nous, de quelques gens qui, pour des penchants donnés ou pour des intérêts donnés, de faire demi-tour sur ce cap stratégique, on ne peut pas manœuvrer un paquebot comme on manœuvre une barque. C'est des relations qui datent de 60 ans. C'est des relations dans lesquelles il y a des engagements, au-delà des engagements politiques et des engagements de principe entre les deux puissances et les deux pays, il y a aussi des engagements matériels, techniques, qui ne peuvent pas être changés. Ça, on ne change pas comme ça du jour au lendemain, même si demain il pouvait souffler un vent de révision et de reddition ici. Ce que vous pensez sérieusement, comme ça du jour au lendemain, on change de partenaire, on change d'habit, on change. Pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir à quelqu'un qui attend juste l'occasion de vous avaler comme une bouchée de pain. À la limite, qu'est-ce qu'ils offrent en échange? À part, à la limite, même à une trahison, on offre quelque chose en compensation. Là, on n'offre rien. On vous dit, laissez-vous faire. Ouais. Soyez gentils, laissez-nous détruire votre allié et ensuite laissez-vous faire aussi. Parce que en matière d'accord d'association, c'est ce qu'ils nous disaient à l'époque. C'était de se laisser faire économiquement en attendant éventuellement de se laisser faire
militairement
ou politiquement. Mais maintenant, on nous demande de changer de partenaire. Mais ce n'est pas le partenaire d'un groupe d'individus ou d'un État ou de M. Etali ou d'un autre. C'est le partenaire d'une nation. Et ce n'est pas M. Poutine qui est notre partenaire personnellement, c'est la nation russe. Et M. Poutine est le représentant légitime actuel de la nation russe. Mais ça aurait pu être qui que ce soit d'autre, la Russie, même avant le président Poutine. Nous n'avons jamais rompu les relations avec la Russie en parlant de terrorisme. Qui était notre fournisseur durant les années 90 qui ne nous a pas lâchés?
Absolument.
Et qui fournissait des terroristes en armement en catimini? Donc, c'est là qu'il faudrait discuter. on ne lâche pas les gens qui ont toujours été à vos côtés, juste pour faire plaisir à des gens qui ont toujours été contre vous, à moins d'être idiots, potentiellement idiots.
D'accord. Donc maintenant, j'aimerais bien maintenant vous poser une question et sur ce qu'il faut faire par rapport d'abord aux accords, à ces accords-là d'association et que vous avez dénoncé déjà en 2005. Je crois que vous avez fait partie de ceux au sein du gouvernement algérien qui ont appelé certainement à les geler ou voire les complètement les abandonner. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer une industrie nationale qui parte des matières premières nationales et qui soit transformée par des industries nationales et avec une main-d'œuvre qualifiée nationale? Qu'est-ce qui nous manque? Il est où le problème? Et la semaine passée, il y a une rencontre qui s'est tenue au Niger, à Niamey, et qui discutait de la nécessité d'une infrastructure de qualité pour accompagner le développement d'une industrie intégrée. Alors, pouvez-vous nous dire comment? Est-ce que vous pouvez nous identifier les problèmes et nous expliquer quelle démarche on devrait avoir pour avancer sur ce dossier?
Ma vision était simple, elle est toujours restée la même de toute façon, c'est qu'il ne peut pas y avoir une industrie nationale qui est déjà dans un état embryonnaire, qui peut être lancée avec des partenariats étrangers intéressés par d'autres critères que l'émergence d'une industrie nationale. Mmh. Sérieusement, et on peut même pas leur demander d'ailleurs de le faire, de se sacrifier pour l'émergence de cette industrie, parce que là, nous parlons d'entité économique. Une entité économique, elle va là où elle trouve un intérêt donné. Maintenant, il y a deux intérêts. Il y a des intérêts légitimes, où on se dit on va gagner de l'argent en faisant émerger une activité quelconque, parce qu'il y a des avantages comparatifs, mais il y a d'autres intérêts beaucoup moins légitimes, où l'opérateur économique étranger se dit, voilà, je vais là où il y a une vache à traire, ou moyennant un projet quelconque qui pratiquement ne rapporte pas grand-chose à ce pays-là, je pourrais quand même me faire des sous que je ne pourrais pas me faire chez moi. Ça a été un petit peu le schéma qui a été suivi pendant 20 ans et qui manifestement pourrait être suivi, je dirais naïvement, en disant voilà, l'Algérie a besoin de ses partenaires pour émerger. L'Algérie a besoin de ses enfants pour émerger. L'Afrique, d'ailleurs, intégralement, elle a besoin de ses compétences pour émerger. Elles existent, ces compétences, mais il ne faudrait pas trop compter sur des partenaires comme ça, conjoncturels, ou bien sur des opérateurs économiques versés dans l'importation déguisée pour faire émerger ses compétences. Ça ne va pas dans le sens de leurs intérêts. Quelqu'un qui importe et son fournisseur traditionnel, justement, qui a un marché captif à travers lui, pourquoi diable irait-il faire émerger une activité qui va leur faire concurrence, qui non seulement va faire disparaître le client, mais pourrait éventuellement créer un fournisseur futur? Croire qu'il existe des individus comme ça, c'est croire que le monde est tombé sur la tête, que les gens sont débiles, qu'ils placent leurs capitaux pour perdre des clients. Je crois que c'est à partir du moment où on croit ça, il faudrait se poser des questions sur sa santé mentale propre et pas sur celle des autres. Donc, pour moi, l'émergence d'une industrie algérienne a eu lieu durant les années 70. Une véritable stratégie industrielle algérienne. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut. Et il y a eu des déboires d'après. Il y a eu des retours, des apostasies économiques des années 80 et 90. Et l'intrusion de toutes sortes de théoriciens du vent qui ont décidé que cette industrie ne valait rien et qu'il fallait maintenant faire appel à des amis un peu partout pour lancer l'industrie. Mais cette émergence industrielle des années 70 a créé à partir du néant, avec un petit peuple de 12 millions, dont à l'indépendance, il n'y avait pas 90 ingénieurs et 500 médecins, elle a créé un tissu industriel qui, jusqu'à la date d'aujourd'hui, représente 80% du tissu industriel existant en Algérie et la seule base d'industrie fiable. Donc moi, ma logique, c'était de, non pas de revenir aux années 70, mais d'utiliser ce socle. C'est comme si on trouve les fondations de ses parents pour essayer de construire quelque chose qui tient la route. On n'enlève pas les fondations pour construire dans le marécage d'à côté. C'était ma logique, c'est toujours ma logique. si on n'intègre pas nos matières premières, si on n'arrive pas à les transformer, si on a toujours besoin de les exporter en l'état pour essayer de justement de financer des projets qui prétendent, au lieu de partir de la case A de la transformation, de la primaire, qui prétendent partir de du cinquième étage, de la fusée, nous n'irons pas très loin. Parce que on ne peut pas dire, voilà, aujourd'hui j'ai décidé de fabriquer, je ne sais pas quoi, au titre d'exemple, il y a des voitures. Voilà, on va ramener des partenaires, on va faire des voitures. Mais pendant ce temps, je ne fais pas de tôle. Pendant ce temps, mon fer n'est pas transformé par les miens. Je dis bien par les miens. Quand je dis les miens, ce n'est pas idéologique, ce n'est pas dogmatique. Non, quand je dis les miens, c'est parce que il y a un cumul de richesses. Les capitaux locaux, quand ils créent de la richesse, elles se cumulent en investissement. Quand on lance un projet chez soi avec des capitaux locaux et une projection locale, chaque sou qui rentre en plus va vers l'expansion de cette industrie. Quand on le fait à contrario avec l'idée d'exporter, parce que la mode est aux exportations, d'exporter au maximum les produits primaires et de se lancer dans des industries à transformation tertiaire, il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette logique. Dans les années 70, il était question de transformer le fer en fonte, la fonte en acier, l'acier en tôle et la tôle en charpente. Mmh. Ou bien en camion, en véhicule lourd. C'est ce qui a été fait d'ailleurs. C'était pas la projection, ça a été fait dans les pays. Aujourd'hui, non. Et on dit non. Quand je dis aujourd'hui, à partir de 82, les gens nous ont convaincus que non, que le fer devait rester en fonte, mais maintenant qu'il fallait ramener des gens pour faire du produit semi-fini, mais que nous étions capables de démarrer le processus industriel, non pas de son amont, mais de son aval. Et je crois qu'en industrie, ou dans n'importe quelle autre logique, personne n'a jamais démarré de l'aval. Les robinets ne donnent pas d'eau, c'est les barrages qui donnent de l'eau. Et nous, maintenant, on ne va pas bricoler à côté du robinet, alors que le barrage est à sec ou bien offert aux autres. Et c'est pas là pour les Américains, d'ailleurs.
Oui, c'est quelque chose qui se translate partout. Est-ce que vous pensez que les universités et les écoles d'ingénieurs en Algérie ou dans le Maghreb ou dans l'Afrique forment des cadres valables qui pourraient justement prendre toute leur responsabilité dans le lancement d'une industrie locale?
Pour l'Algérie, j'en suis sûr, je l'ai constaté matériellement du visu, mais la preuve, de toute façon, étant que ces universités algériennes qui sont décriées, justement, quand il y a des campagnes médiatiques, ce n'est pas par hasard. Quand on décrit les instituts spécialisés, les grandes écoles et les universités algériennes qui ont leur art, mais qui ont leur mérite. C'est justement pour intégrer dans la cervelle du commun des mortels que nous ne sommes pas capables de faire émerger une élite capable justement de lancer cette industrie. Et en même temps, en parallèle, nous avons des investissements qui ont recours à tout, sauf à la main-d'œuvre qualifiée locale, sauf justement aux productions de ces universités. Mais aussi en parallèle, nous avons des aspirateurs à compétences qui nous pompent justement ce que forment ces universités. Curieusement, des universités qui sont incapables d'avoir un sidérurgiste à Annaba, ont envoyé des sidérurgistes en Europe, des écoles spécialisées qui prétendument ne peuvent pas faire de la pétrochimie, n'ont pas formé de gens capables de faire de la pétrochimie à Arziv, ont fait de la pétrochimie au Moyen-Orient, ont envoyé les mêmes cadres faire de la pétrochimie au Moyen-Orient. Absolument. Le problème qui se pose, ce n'est pas dans l'inexistence de ces compétences. On n'ouvre pas des écoles sur fonds publics pour former des centaines de cadres par année, de cadres de grande qualité et des milliers d'autres de moindre qualité, pour se retrouver justement en train d'importer des supposées compétences. Moi, j'ai vu des investisseurs, entre guillemets, ou bien même des contractants étrangers, nous ramener des résidus de bar sous forme de consultants, de conseillers et de techniciens.
Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas bien compris votre réflexion.
C'était des résidus de bar. Des clochards, érigés en consultant, érigés en technicien, alors que le monsieur n'avait pas de répondant. Et même certains bureaux d'études, curieusement, quand ils avaient un contrat de consulting pour l'industrie algérienne ou pour d'autres filières dans les 10 dernières années, ils donnaient ça en sous-traitance à des compétences locales qui, elles, touchaient 10% en dinars et l'autre, ils touchaient les 90% restants en devises convertibles. Alors que le bureau local qui a fait l'étude vaut mieux, 10 fois mieux que le bureau qui lui a octroyé l'étude qu'il a lui-même arraché à une institution local ou à une entreprise locale. On s'est retrouvé pratiquement dans un champ de mine où les intérêts criminels des uns chevauchent les stratégies tout aussi criminelles des autres. Vous avez un monde occidental qui ne veut pas de votre émergence en tant que pays africain. Et c'est valable aussi pour nos voisins qui croient qu'ils sont inscrits dans les tablettes de l'Occident. Si demain, ces gens-là démontrent leurs investissements, supposés investissements, ils vont se retrouver avec une jachère intellectuelle et industrielle. Ce n'est pas encore notre cas parce qu'ils n'ont pas réussi à s'accaparer tout le tissu industriel. Mais s'ils y arrivent un jour, nous n'existerons jamais en tant que puissance industrielle, ni même en tant que pays ayant vocation à être un jour industrialiste. Voilà le problème que nous avons rencontré, qui est toujours d'actualité. D'ailleurs, qu'il sera toujours tant que nous n'avons pas changé notre paradigme. Mmh. Tous les pays qui ont émergé au plan industriel avaient une stratégie nationale, avec des ressources nationales, des efforts, des volontés nationales et des compétences nationales. Maintenant, faire appel à des alliés en tant que consultants pour une aide sur des projets donnés, bien sûr, aucun pays n'a vécu totalement en autarcie. Mais confier l'intégralité du volet à un supposé partenaire qui, lui, le dirige au gré de ses intérêts, il faut bien vous douter que ses intérêts ne seront jamais les vôtres. C'est moi, personnellement, si je vais investir à Paris, même dans un restaurant, ma projection n'est pas d'enrichir la France, mais de construire au village. Donc, forcément, si j'arrive à le fourguer le mauvais produit pour un bon prix, je le ferai. Business is business. Donc, il faudrait s'attendre à ce que dans leur logique, ça se passe de la même manière. Et c'est ce qui s'est fait. On s'est retrouvé avec des projets industriels censés réduire notre dépendance aux hydrocarbures, censés réduire nos importations. Et quand on regarde le coût des intrants de ce projet, on trouve qu'ils sont supérieurs aux produits finis précédemment importés pour la même quantité. Vous trouvez ça normal? De créer des investissements qui dépensent plus de devises que les importations directes.
Donc, c'est clair. On peut même penser que ça a été fait à dessein pour juste maintenir l'économie dans un état d'importation total.
C'est une supercherie. Moi, je suis pour l'investissement. Mais j'avais dit, je le redis toujours, que des investissements qui maintiennent ma dépendance au port n'en sont pas. Mm-hmm. Parce que si demain, la seule ressource en devise, on nous empêche justement d'avoir recours à ce port. À quoi pourrait servir justement cet investissement si on ne peut pas lui acheter des intrants? Le problème qui s'est posé, c'est que nous arrivons à juguler les importations. Parce que là, vous importez, à un moment donné, on vous dit, écoutez, on n'a pas d'argent, notre argent, on en a besoin pour autre chose, donc on va pas vous laisser importer tel produit. Mais quand vous transformez la même activité en supposée industrie, alors qu'elle importe les mêmes intrants, quand vous disiez, au même monsieur, on arrête ce cinéma parce qu'on n'a plus de quoi payer les intrants, il vous sort l'histoire de l'emploi. Et moi, qu'est-ce que je fais de ces employés? Et moi, cher ami, ça n'a jamais été des employés. Les employés sont censés produire une valeur ajoutée qui nous dispense d'importer et pas nous maintenir en dépendance totale face à l'importation. Donc maintenant, si vous utilisez des manutentionnaires et que vous les appelez des employés, même les bandes dans les rues peuvent parler d'emploi. Ah bon, c'est une manière de créer de l'emploi, mais bon, c'est un emploi que je trouve illégal et que je trouve aussi immoral.
D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Monsieur Aïtali, pour toutes ces informations et ce débat et entretien passionnant. J'espère vous retrouver avec un immense plaisir dans un autre entretien sur un autre sujet. Merci beaucoup.
C'était Ferhat Aïtali, ex-ministre algérien de l'industrie. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Sputnik Afrique. Cette émission consacrée aux initiatives du Parlement européen jugées dérisoires touche à sa fin. Pour notre interlocuteur Ferhat Aïtali, l'Occident a complètement perdu la boussole en s'engageant dans des batailles à la Don Quichotte perdues d'avance. Au-delà de ce qui se passe sur le plan mondial avec l'apparition d'un nouveau monde multipolaire et la crise économique et financière, l'Europe fait face à une véritable crise de civilisation semblable à bien des égards à celle qui a présidé à la chute de l'Empire romain. Ainsi, le vieux continent n'a-t-il pas besoin d'élite de la trempe du général de Gaulle qui voyait le salut dans une Europe de l'Atlantique à l'Oural? C'est aux citoyens européens d'en décider. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.